40 à Paris.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et nous sommes de retour pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. C'est la libre antenne. 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70. Vous revenez, si vous le souhaitez, sur les principaux événements de ces derniers jours. Vous pouvez aussi profiter de la libre antenne pour nous sensibiliser, pour nous interpeller sur des sujets dont on ne parle pas suffisamment selon vous et pour nous parler de l'actualité dans votre pays. Vous nous écoutez à travers le monde. 33 9 693 693 70. Paul est à Grenoble. Il nous a envoyé un courrier électronique. Nous l'avons donc rappelé. Bonjour Paul.
Oui, bonjour Al.
Au lendemain de l'attentat meurtrier à Charlie Hebdo, la France a observé une minute de silence en hommage aux victimes. Mais dans certains établissements scolaires, eh bien cette minute de silence n'a pas pu être respectée. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, s'en est expliquée d'ailleurs cette semaine à l'Assemblée nationale. Elle a fait état de 200 incidents dans les établissements scolaires, dont une quarantaine qui ont été signalés à la police et à la justice. Et vous souhaitez justement nous interpeller sur ces incidents, d'autant que vous êtes vous-même un ancien enseignant.
Tout à fait. Vraiment, j'ai été vraiment désolé de voir que des enfants refusent de respecter l'autorité et les institutions de la République française. Et pour moi, le problème, c'est pas les enfants. C'est au niveau des parents. Il faut éduquer les parents à comprendre que l'école ou les institutions de la République doivent être respectées. Et pour cette question, je pense que le gouvernement doit montrer une fermeté sans faille, instaurer comme solution et renforcer l'éducation civique et morale à l'école, faire respecter les enseignants à l'école, parce que ce que je constate, faisant cas de mon expérience, les enfants ont tendance à ne pas respecter les enseignants et ils pensent faire ce qu'ils veulent. Et cela souvent reste sans être puni.
Alors, vous dites qu'il faut responsabiliser les parents. C'est vrai qu'en ce moment, en France, il y a un vrai débat. Comment inculquer les valeurs républicaines à l'école? Éric Ciotti, qui est un député UMP des Alpes-Maritimes, lui, il propose, écoutez bien, et vous me direz ce que vous en pensez, Paul, de sanctionner les familles dont les enfants ont bafoué la minute de silence en leur supprimant les allocations familiales.
C'est un peu l'extrême. C'est un peu extrême. Je pense qu'avant de sanctionner, il faut sensibiliser et éduquer. Il faut pas déjà taper sur la tête des parents parce que, bon, les enfants ont fait ceci. Il faut chercher à savoir ce qui se passe dans ces familles d'abord et suivre ces familles, suivre ces enfants et les amener à comprendre que l'école n'est pas contre l'évolution des enfants, contre la religion musulmane ou quoi que ce soit. Et c'est pourquoi je demande à ce que, franchement, il faudrait que l'école puisse travailler en harmonie avec les parents, souvent convoquer les parents et leur faire part de ce qui se passe à l'école avec les enfants, ce que l'école compte faire, parce que c'est dans ce sens-là qu'on pourra amener les uns et les autres à respecter les institutions de la République.
Merci Paul d'écouter RFI à Grenoble, RFI.fr sur Internet. Bonjour Apollinaire.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Paris et vous souhaitez revenir, vous, sur la mobilisation historique de dimanche dernier dans les rues de Paris. 4 millions de personnes pour rendre hommage, évidemment, aux victimes des attentats de la semaine dernière. 4 millions de personnes unies pour dire non à l'intolérance, non au terrorisme. Et vous étiez dans la rue, c'est ça? Vous avez manifesté?
Oui, Juan. J'étais au cœur de ce rassemblement et de cette marche. J'étais ému. Je n'ai jamais vu un tel rassemblement en France. J'ai jamais vu ça, Juan, j'ai jamais vu ça. Et je n'ai pas vu les 4 millions qu'on a dit. J'ai pas du tout vu 4 millions.
Ah
j'ai,
bon?
j'ai vu un bloc géant, un roc massif dressé, impressionnant. J'ai vu une seule France debout pour avancer dans la même direction. Et pour une fois, ce qui m'a vraiment ému encore, Juan, c'est que les rôles semblaient inversés. Ce n'est ni la police ni la gendarmerie qui faisait la surveillance. C'est les Français eux-mêmes, puisqu'ils étaient les plus nombreux. Donc, nos yeux étaient des caméras. coulisses, mais du jamais vu. Ouais.
Que restera-t-il, Apollinaire, de ce 11 janvier 2015 ?
Mais déjà, avant de dire ça, Juan, j'aimerais dire que j'ai vu dans ce rassemblement la force, la puissance et la grandeur de la France. C'est-à-dire le peuple français a exprimé cela lui-même, directement. Et moi, je dis que ce qui vient de se passer là, c'est un exemple. C'est-à-dire que nous avons donné un exemple, un témoignage pour les générations futures. C'est-à-dire que si les valeurs sur lesquelles la France est fondée sont attaquées, la France se retrouve comme un seul homme. Il n'y a plus de parti politique, plus de sensibilité politique. Ouais,
mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est « et maintenant ?» Et maintenant, que fait-on ?
Ah, voilà, c'est une très 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 bonne question. C'est-à-dire que maintenant, les personnes qui tuent des Français qui tuent des Français, qui assassinent des Français, qui violent les valeurs sur lesquelles se trouve fondée la France, est-ce qu'on peut considérer ces personnes comme des Français ? C'est pas possible.
Donc vous pensez quoi ? Que faut-il faire ? Leur retirer la nationalité française ou menacer de leur retirer la nationalité française comme l'ont proposé certains députés français ?
Mais que signifie être français ? C'est détruire la France ? Que signifie être français ? C'est tuer des Français ? Que signifie être français ? C'est ça la question. Alors si des personnes qui se disent françaises vont à l'encontre de cela, mais il faut en tirer les conséquences, Juan Gomez.
Et donc ?
Il faut en tirer les conséquences. Moi, je veux dire une chose.
En deux mots, il faut conclure, Apollinaire. Il y a beaucoup de monde au standard, d'ailleurs, qui souhaite revenir sur cette actualité. Quand vous dites il faut tirer les conséquences, vous pensez à quoi, vous ?
Ben, il faut sanctionner ces gens-là. Il faut les sanctionner selon la loi. C'est-à-dire que la loi est générale, et cette loi doit sanctionner ces personnes-là. Bien. Les mettre devant la justice et les mettre hors d'état de nuire.
Swan nous rejoint au standard dans un instant. Je vous remercie, Apollinaire. Bonjour, Swan.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Grande-Bretagne.
Oui, du nord de l'Angleterre, oui.
Très bien, on vous écoute.
Mais moi, en fait, ce que je voulais simplement partager avec vous, c'était le constat du traitement de l'information ici sur l'attaque de Charlie Hebdo. Mmh. Et en Angleterre, c'est assez intéressant, puisque d'un côté, ils sont complètement du côté français, c'est-à-dire que ça a été un choc en Angleterre. On a vu David Cameron se déplacer.
Aux côtés de François Hollande, oui. Avec d'autres chefs d'État. Ils étaient une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, effectivement, à Paris. David Cameron était là. Je sais que le maire de Londres a également organisé une très grande cérémonie dimanche dans la capitale.
Tout à fait. Et en Angleterre, c'est moi qui ai organisé dans la ville de Leeds.
Oui.
La ville de Leeds qui est la deuxième ville anglaise, la deuxième ville financière, c'est le deuxième pôle financier en Angleterre.
Oui.
Et donc moi, j'ai organisé une marche où malheureusement, il n'y a eu que 150 personnes, mais c'était déjà une solidarité de la part des Anglais du nord de l'Angleterre.
Mmh.
Et en fait, le traitement de l'actualité ici, c'est que d'un côté, l'Angleterre ne veut pas diffuser, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'Angleterre ne veut pas diffuser l'image de la dernière édition de Charlie Hebdo.
Tout à fait.
On ne voit pratiquement aucune image.
Il n'y a que deux quotidiens, Le Guardian et The Independent, qui ont publié la une du journal satirique, mais en page intérieure. Et encore, lorsque ces deux journaux ont publié la une de Charlie Hebdo, c'était vraiment en bas de page, en petit format, en format très réduit. La presse anglo-saxonne en général, et notamment la presse britannique, a effectivement décidé de ne pas publier cette une pour ne pas choquer.
Choquer la communauté musulmane. Et ça c'est peut-être un exemple que peut suivre la France, dans le sens où l'Angleterre a souvent des positions comme ça, même vis-à-vis de l'extrême droite. Là, je vais vite aller de ce côté-là. L'extrême droite, par exemple, n'est jamais, pratiquement jamais dans les journaux, on en entend. Là, comme il y a UKIP qui commence à surgir.
Bah, plus que surgir, hein. UKIP est aujourd'hui un parti incontournable.
Oui, mais on donne la parole aux leaders, mais de façon très limitée. C'est-à-dire qu'on lui donne la parole que quand c'est absolument nécessaire. On n'en fait pas l'apologie, oui. Ça ne devient pas une espèce
Mais pour revenir rapidement, Swan, à la une de Charlie Hebdo, vous comprenez, vous, la démarche des médias britanniques ?
Ben, je comprends dans un sens, puisque comme j'habite en Angleterre depuis 8 ans, je vois exactement pourquoi ils choisissent cette démarche-là. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer avec l'extrême droite. Ils sont, l'Angleterre a toujours eu des positions dans des cas précis comme ceux-là. Ils sont très juste dans le sens où pour eux ils sont contre l'extrême droite, donc ils vont en parler le moins possible.
Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, c'est
ce qui n'empêche pas UKIP, par exemple, parti anti-européen, anti-Europe, et bien d'être de plus en plus présent au Parlement. On verra ça d'ailleurs, et tout le monde suivra évidemment avec grand intérêt la présence de UKIP après les prochaines élections législatives dans votre pays, en Grande-Bretagne. Merci d'avoir appelé, Swan. Bonne journée dans le nord de la Grande-Bretagne. 339-693-693-70. Un autre auditeur qui nous vient de Paris, il s'appelle Herbert. Il revient sur la présence des chefs d'État africains dimanche à Paris, aux côtés de François Hollande. Il y avait 6 chefs d'État africains. Bonjour Herbert.
Bonjour Juan et bonjour à toute l'équipe de AP sur l'actualité.
On vous écoute.
Oui, j'avoue, j'étais assez surpris de voir Ali Bongo, le président du Gabon, dans le cortège des chefs d'État présents à la manifestation justement républicaine. Et j'avoue que je suis resté très interrogatif, je dirais, quant à cette présence, si ce n'est à des fins de récupération politique, parce que on se souvient que le Gabon n'est pas directement impliqué par des actes terroristes, d'une part.
Et mais ça n'empêche pas, excusez-moi, ça n'empêche pas d'être solidaire du peuple français.
Naturellement, ça, on lui reconnaît cette solidarité. Mais enfin, quand Monsieur Bongo Ali porte le t-shirt "Je suis Charlie", j'ai envie de dire que Monsieur Bongo n'est pas reconnu au niveau international comme étant un serveur défenseur des droits fondamentaux des peuples. Et je voudrais même rappeler, et si ce n'est informer vos auditeurs, que un responsable, un journaliste même de Charlie Hebdo a publiquement dénoncé la présence d'Ali Bongo dans le cortège des chefs d'État dimanche dernier sur l'antenne France 2. Donc c'est pour dire que il n'est pas du tout le bienvenu dans ce genre de
Le Gabon, qui est 98e au classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, je regardais ça pendant que vous me parliez. Alors c'est vrai que la présence vous parlez d'Ali Bongo, mais enfin il y avait d'autres personnalités politiques, d'autres dirigeants aux côtés de François Hollande qui ont suscité des commentaires, des polémiques sur les réseaux sociaux, notamment certains citaient la présence du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, le Premier ministre turc. Il y avait également des ministres russes, égyptiens ou encore des Émirats arabes unis qui, voilà, ne respectent pas forcément systématiquement la liberté d'expression, la liberté de la presse. Merci Herbert de ce témoignage, de cette réaction. 339-693-693-70. Je regarde la pendule. On a beaucoup d'appels sur un tout autre sujet. Boko Haram, la secte, mais ce n'est plus une secte maintenant, c'est clairement un groupe terroriste, 6 ans d'insurrection, et ces islamistes de Boko Haram ont mené leur offensive la plus destructrice de ces 6 dernières années. C'était au début du mois de janvier dans le nord-est du Nigeria, 16 localités brûlées, on parle de 20 000 personnes qui ont dû fuir la région, certaines sources parlent de 2000 morts en l'espace de 2-3 jours dans l'extrême nord-est du Nigeria. Ambroise, vous êtes en région parisienne. Bonjour.
Bonjour, Juan.
Bon, vous réagissez à cette actualité.
Oui, vraiment, ça me choque parce que je suis Camerounais déjà et solidaire de mes frères nigérians qui fuient et tchadiens qui sont touchés quelque peu et puis du Niger. Alors, moi, ce que je déplore dans cette affaire-là, c'est le manque de parole, le manque de dialogue entre Goodluck Jonathan et le président Biya. Ça fait un bon bout de temps qu'ils ne se parlent pas, ou très peu. Paris n'a pas changé la donne.
Quand vous dites je Paris, pense... vous faites référence à la conférence qui s'est tenue à Paris, François Hollande, autour des chefs d'État de la sous-région pour lutter contre Boko Haram.
Effectivement. Et je suis vraiment navré de voir ce qui se passe aujourd'hui, surtout à ce niveau. On se rend compte qu'en mutualisant les forces nigérianes, camerounaises, tchadiennes et nigériennes, Boko Haram ne peut pas faire le poids. Et il y a un autre sujet sur lequel vraiment je suis complètement abasourdi, c'est l'autisme, le silence total de l'Union africaine.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. L'Union africaine s'est exprimée cette semaine. J'essaie de retrouver le communiqué, mais bon, il y a qu'on le veuille ou non, beaucoup de réactions quand même. Donc, j'essaie de retrouver. Non, j'ai pas le communiqué sous les yeux, mais voilà, l'Union africaine disait qu'il fallait renforcer la lutte, mettre davantage de moyens. Donc, on peut pas dire que l'Union africaine soit restée silencieuse. Ça, c'est sûr. Ne raccrochez pas, Ambroise. Je voudrais qu'on accueille Francis, qui nous appelle de Libreville. Bonjour, Francis.
Bonjour, Warren.
Un peu comme Ambroise, vous aussi, c'est ce que vous avez dit, je reprends vos propos au standard, un coup de gueule contre l'inaction, aussi bien du dirigeant nigérian que finalement de tous les chefs d'État de la sous-région.
Mais il faut le comprendre, c'est exactement la situation, c'est vrai, Warren. Ça, il est incompréhensible, je vous l'assure, Warren. Depuis 2009 que ce groupe armé est en train de faire des dégâts dans la sous-région, c'est en fait en début 2014, disons fin 2013, que la communauté internationale commence à bouger.
Alors la communauté internationale a commencé à bouger à partir du moment où il y a eu 200 jeunes filles qui ont été kidnappées.
Parfait, évidemment. C'est lorsque il y a eu ces jeunes filles qui ont été kidnappées. Et aujourd'hui, avec le grand coup qu'ils ont, le coup d'éclat qu'ils ont fait en début de mois, évidemment, vous comprenez. Pourquoi est-ce que la communauté internationale a tant attendu? Pourquoi elle ne s'investit pas totalement dans cette guerre contre cette secte? Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser, Ewan.
Oui. Mais avant que la communauté internationale, pourquoi les chefs d'État de la sous-région ne s'investissent pas davantage? On a vu effectivement Paul Biya déployer 2000 soldats le long de sa frontière avec le Nigeria. On a appris hier que le Tchad allait envoyer son armée au Cameroun pour aider justement les Camerounais à lutter, à combattre ces islamistes. On assiste là à un début de quelque chose tout de même.
C'est un début de quelque chose, évidemment, et c'est louable. L'action de l'IDES est bien louable. L'IDES a de l'expérience dans ce genre d'activité. C'est possible, évidemment, qu'il donne un coup de poing. Là-dessus, un coup de pouce, absolument, à l'armée camerounaise.
Ouais.
Mais cependant, moi, je crois qu'il y a des points sur lesquels, absolument, la communauté internationale doit rebondir. Parce que, vous savez, le problème de financement de cette secte, c'est pas un problème qui va se résoudre avec les pays limitrophes. Il y a sûrement des implications internationales sur le financement de cette secte. Il y a des problèmes de recrutement de cette secte. Mais Iwan, vous savez aujourd'hui, la partie septentrionale du Gabon et du Cameroun, elle est à cheval entre la FDA qui a des problèmes et la partie est du Nigeria. Si vous savez, si on ne parvient pas à éteindre, à limiter complètement les activités de cette secte, nous sommes en train de penser qu'événement, il risque d'avoir un problème, une implosion vraiment complètement.
Vous craignez-vous une régionalisation de Boko Haram? Gédéon, lui, nous appelle de N'Djamena, au Tchad. Bonjour Gédéon.
Bonjour Juan, bonjour David Thompson et à toute l'équipe de RFI.
David Thompson, journaliste de RFI, effectivement, merci pour lui. On vous écoute Gédéon, il vous reste une minute malheureusement.
Eh bien, il est louable d'abord que le fait que mon chef-d'État, Idriss Déby Itno, a pu, n'est-ce pas, venir en appui à son homologue Paul Biya. Il est louable cet acte, mais je voudrais simplement dire, Juan, que le Tchad dispose d'une école privée dans le domaine des renseignements. Et la lutte contre Boko Haram est une lutte stratégique. Et on a besoin beaucoup plus de renseignements en amont pour pouvoir détecter leur mode opératoire et leur milieu.
Excusez-moi, j'ai du mal à vous comprendre. Excusez-moi, Gédéon, j'ai du mal à vous comprendre dans mon casque. Le réseau ne doit pas être bon avec N'Djamena. Vous dites qu'il faut privilégier le renseignement et vous disiez, ce que j'ai compris en tout cas, c'est que le Tchad avait une expertise en la matière. On aura l'occasion évidemment dans les prochains jours et les prochaines semaines de revenir sur la lutte contre Boko Haram. Merci à tous de votre fidélité. Merci de l'intérêt que vous portez tous les matins à cette émission qui vous donne la parole lundi. Allez, on parlera d'un sujet un peu plus léger, on parlera football avec le coup d'envoi demain de la Coupe d'Afrique des Nations. RFI vous permettra évidemment de suivre cette compétition à la radio, mais aussi sur le site internet, et ce sera pour nous l'occasion de dresser un état des lieux du football africain. Dites-nous quels sont les atouts, les faiblesses de toutes les équipes qui vont participer à cette compétition, et d'ailleurs, nous attendons dès maintenant vos pronostics.
C'était Appel